Voix étudiante, une mini-série du balado Adaptation qui donne la parole aux membres étudiants du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Bienvenue dans le premier épisode du balado Voix étudiante. Je me présente, je m'appelle Sonia Anvard, je suis agente de mobilisation des connaissances pour le GRISE, qui est le groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Mon rôle au sein du GRISE, c'est de valoriser et diffuser les savoirs issus des travaux menés par les chercheuses et chercheurs, notamment à travers des initiatives comme ce balado. Au fil de cette mini-série balado, je vais aller à la rencontre d'étudiantes et d'étudiants membres du GRISE pour vous permettre de plonger au cœur de leurs histoires. On va découvrir ensemble leur parcours vers les études supérieures, les défis et les réussites rencontrées dans le monde académique, puis on va discuter des projets de recherche qu'ils et elles mènent dans le cadre de leur maîtrise ou de leur doctorat. Je vais m'intéresser à ce qui les anime, ce qui les motive à poursuivre en recherche et à comment leurs travaux en psychoéducation, en travail social ou en enseignement contribuent à faire avancer les connaissances et les pratiques dans ces domaines. Je suis très heureuse de prendre le micro pour vous faire découvrir ces parcours inspirants. On débute la mini-série en compagnie d'Emma Christini et de Rachel Surprenant, qui sont toutes les deux membres du Digital Child Lab, dirigé par Caroline Fitzpatrick. Le fil commun de leurs travaux? L'impact des écrans dans nos vies. Emma s'intéresse à un phénomène encore peu exploré, qui est l'impact cognitif de l'exposition indirecte aux écrans chez les enfants d'âge préscolaire. Tandis que Rachel mène une vaste étude qui explore les liens entre les habitudes numériques, la santé mentale et la réussite scolaire chez les jeunes adultes au cégep. Dans cet épisode, on va discuter de leurs projets doctoraux, mais aussi de leur parcours de chercheuse, des défis méthodologiques rencontrés au fil de leurs recherches, des premiers résultats qui émergent et de ce que leurs travaux peuvent nous apprendre afin de favoriser un usage des écrans qui soutient le bien-être et la santé des jeunes. Bonne écoute! Bonjour Rachel, bonjour Emma. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. On va pouvoir parler de vos projets de doctorat, puis aussi de vos parcours personnels, vos parcours académiques. Puis, bon, en fait, je commencerai un peu avec ça. Les parcours académiques classiques, hein, suivent souvent une ligne continue. Donc, on parle de baccalauréat, maîtrise, doctorat, souvent dans une même discipline, sans grande interruption. Puis vous, au contraire, vous avez suivi des chemins qu'on pourrait dire peut-être un peu atypiques, hein, qui ont été plutôt riches en expériences professionnelles diverses, des voyages, des questionnements aussi sur votre place dans le monde académique. Donc, qu'est-ce qui vous a amené, chacune à votre façon, à entreprendre un doctorat? On pourrait peut-être commencer par toi, Rachel.
Oui, ben moi, en fait, ça s'est confirmé il y a peu de temps. Tout d'abord, là, pour les personnes qui nous écoutent, En fait, moi, je fais un retour aux études parce que j'ai 43 ans maintenant. Je suis maman aussi de deux enfants. Puis, je suis enseignante en éducation physique au Cégep de Sainte-Hyacinthe. Donc, le doctorat est arrivé dans ma vie en faisant de la recherche à mon Cégep avec une collègue et chercheuse qui m'a montré pas mal tout ce qu'elle savait en recherche. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment envie de poursuivre des études au doctorat. Alors, disons que c'était pas, comme tu le mentionnais là, dans ton introduction, un cheminement typique là, où on poursuit les études, où on obtient les diplômes les uns après les autres. Mais c'est ça, c'est plutôt arrivé dans mon milieu de travail. Puis pour moi, ça avait un sens de poursuivre mes études au doctorat parce que au cégep, je peux mener des recherches auprès des étudiants que je côtoie tous les jours. Donc ça venait vraiment m'animer là, de continuer à faire de la recherche pour pouvoir, c'est ça, ensuite appliquer des choses dans mon milieu de travail, dans mon milieu d'enseignement. Donc voilà. Alors, j'ai commencé le doctorat il y a 2 ans. Puis, ça se passe super bien.
On y reviendra, mais c'est comme tu disais, il y a ton contexte professionnel a stimulé ton désir pour la recherche parce qu'il y a des questionnements qui venaient au sein de ton milieu de travail. Mm-hmm. Puis toi, Emma, comment est-ce que tu en es arrivée à entreprendre un doctorat?
Moi, c'est différent de Rachel. Moi, je viens de France, donc je suis étudiante internationale ici. Je suis dans le cours de ma quatrième année de thèse, donc c'est ma dernière, techniquement. Je suis venue ici juste pour faire ma thèse. Moi, contrairement à ce que tu disais dans l'introduction, je n'ai pas un profil typique. Là. Rachel, elle a eu une interruption dans ses études. Moi, c'est juste que je n'ai pas du tout eu des études dans la même discipline. J'ai commencé avec l'équivalent d'un bac en histoire. Ensuite, j'ai eu une maîtrise en enseignement préscolaire primaire quand même. J'ai fait une seconde maîtrise, toujours dans le milieu de l'éducation. J'ai enseigné un petit peu, puis après, je suis venue faire ma thèse ici. Et c'est au cours de ma seconde maîtrise que j'ai eu goût, en fait, de poursuivre en recherche parce que je me suis vraiment intéressée à tout ce qui était fonction exécutive. Et c'est surtout qu'il faut savoir que dans ce milieu-là, où j'ai fait ma maîtrise, en fait, il y a peu de choses qui sont axées sur la recherche, mais moi, j'avais le goût d'aller chercher plus loin. Et pour ça, ben, du coup, je suis venue faire une thèse ici. C'est ça.
Puis, j'aimerais ça vous entendre. Derrière chaque projet doctoral, c'est quand même des gros projets à mener. Il y a des fois un instant charnière, là, une rencontre, une conférence, un article ou quelque chose qui donne un déclic comme « Ah oui, voilà, ça va être ça mon sujet, j'ai envie de me lancer ». Je serais curieuse de savoir un peu, ça a été quoi ce moment-là pour vous?
Je te laisse la parole, Emma, pour
moi, ça a été les fonctions exécutives. En fait, j'ai vraiment découvert la notion, le concept de fonction exécutive quand j'étais au cours de ma maîtrise. Ça, c'était vraiment on va dire ma pierre d'assise, là, vraiment, qui m'a donné le goût d'aller dans la recherche. Puis, en fait, en France, j'arrivais pas à trouver de directeur de thèse qui correspondait à ce que je voulais, en fait. Et puis, j'ai toujours voulu aussi venir étudier au Canada. Je savais qu'il y avait une expertise dans le milieu de l'éducation, donc c'est ça que je voulais aller chercher. Je me suis toujours dit que je voulais étudier au Canada, donc j'ai pris mon courage à deux mains, pour le dire. J'ai entamé les démarches pour venir. Donc, c'est ça. Puis, comment est-ce que j'ai fait? C'est un peu dur au début de trouver, surtout quand on connaît personne. Donc, moi, je me suis inscrite à des salons de recrutement où j'ai rencontré des recruteurs d'université. Et j'ai rencontré Marie-France Noël. J'ai échangé avec elle. Elle m'a demandé ce qui m'intéressait, en fait, mes grands axes de recherche, mes thématiques, ce qui m'animait. Donc, je lui ai nommé un petit peu ces derniers. Puis, elle m'a dit, « Ah, mais je pense que tu pourrais aller voir telle personne qui était en psychoéducation. » Sauf que moi, avec mon background, je ne pouvais pas aller en psychoéducation. J'avais trop de lacunes. Puis, je n'avais pas forcément goût aussi de reprendre tout, de faire beaucoup de propédeutique, c'était pas ce qui m'animait le plus. Donc, il m'a dit, mais en éducation, je pense qu'il y a quelqu'un qui fit très bien avec ce qui t'intéresse. Vous avez les mêmes champs d'intérêt. Donc, c'était Caroline Fitzpatrick. Puis, on a eu une rencontre. Et elle, en fait, elle a apporté toute la notion, tout ce qui était thématique lié aux écrans, en fait. Mm-hmm. Là, c'était vraiment développement de l'enfant, fonction exécutive aussi. Vraiment, c'est une grosse part de ses recherches, mais elle est connue pour ses travaux sur l'exposition aux écrans. C'est elle qui a apporté cette dimension.
Donc, c'est ça. OK, donc tu avais déjà, c'est ça, la fibre pour les fonctions exécutives, ouais. Une rencontre via un salon de recrutement. Puis combien de temps ça a pris avant que ça se place entre
Avec les
décisions parties?
Avec tout ce qui est concerné, parce que c'est ça se fait pas en un jour, là. Ça m'a pris un an avec les papiers, parce qu'il faut ça, il faut rencontrer son équipe de direction. Moi, il a fallu que je m'inscrive à l'université, mais puis s'il y a des délais, il y a des choses qu'il faut, des démarches administratives à faire. Donc, ça prend du temps, que ça m'a pris un an, puis je suis rentrée à l'hiver 2022, en janvier.
Okay. Je suis pas rentrée en septembre. Puis toi, Rachel, tu parlais tantôt d'une première recherche que tu as menée avec une collègue au cégep.
Oui. C'est sûr que cette expérience-là, c'est ça qui m'a amenée à m'initier à la recherche et à vouloir poursuivre. Mais si je reprends ta question qui ciblait un peu un élément, quelque chose de charnière là, qui a vraiment fait une différence, moi, je dirais que c'est le retour à enseigner après la pandémie qui a été une période charnière, un élément qui a fait en sorte que j'ai voulu faire une recherche sur les habitudes de vie des cégepiens et leur santé mentale. Donc, pour nous, là, les personnes enseignantes au niveau collégial, on avait été environ près d'un an et demi à faire l'enseignement à distance. Puis lorsqu'on est revenu au cégep, moi, ça m'avait frappée, puis pas rien que moi, mes collègues aussi, là, mais il y avait des changements chez les étudiants. Moi, d'ailleurs, qu'est-ce qui m'avait beaucoup frappée quand j'étais revenue, là, quand je voyais les étudiants dans les corridors, c'était qu'ils avaient presque tous des écouteurs mobiles dans les oreilles, puis ils se promenaient avec leur téléphone. C'était comme juste des personnes qui marchaient dans les corridors sans se parler, les yeux rivés sur le téléphone, les écouteurs. Puis là, j'ai vu ensuite dans mon enseignement, il a fallu que j'avertisse des personnes pour leur dire, ben le cours commence, on va enlever les écouteurs. Tu sais, des choses que j'avais jamais fait avant.
Avant la pandémie, tu n'avais pas fait ces interventions.
Ben non, non. Puis, le téléphone était très omniprésent après la pandémie. Puis, j'ai observé aussi, au niveau de la santé mentale des étudiants dans mes cours, des problématiques que je rencontrais pas avant. Donc, en parlant avec mes collègues aussi, on était frappés de ces changements-là. Puis, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai voulu examiner davantage les habitudes de vie post-pandémique des cégepiens, puis leur santé mentale aussi en lien avec tout ça.
Fait que c'est une question de recherche qui est vraiment montée du terrain dans lequel tu es,
ouais,
puis d'une
échange
avec des pairs.
Oui, ça l'a vraiment émergé sur le terrain. Puis je pense que c'est ça qui me garde motivée dans ma recherche aussi. Puis à ce moment-là, ben un peu comme aimant, là, on est intéressé à faire un doctorat, mais là, comment qu'on se prend? Faut trouver la direction. Puis là, moi, j'étais à deux doigts de lâcher prise là, par rapport à m'inscrire au doctorat parce que j'avais vraiment de la difficulté à trouver. Je regardais sur les sites Internet des universités, puis là, je regardais les profils des profs, puis j'essayais de voir quelque
c'est
chose.
C'est pas une démarche évidente, ouais.
Ouais, c'est ça, c'est pas évident. Puis moi, à ce moment-là, je me rappelle que dans ma première recherche, où je montrais un peu des données sur la sédentarité des étudiants puis les habitudes de vie, j'avais dans mes références justement une étude qui avait été menée par Caroline Fitzpatrick. Puis là, quand j'avais vu son nom, ça m'a fait « Ah oui, j'ai vu ça quelque part. » Puis là, je suis allée voir dans mes recherches, puis là, j'ai fait le lien. Puis là, j'ai fait « OK, bien, je vais la contacter. » À ce moment-là, elle était en déplacement. Donc, je me disais, ça fonctionne pas, j'ai pas de retour, mais finalement, elle m'est revenue, puis j'ai fait une rencontre avec elle, puis tout de suite, là, ça l'a cliqué, puis j'ai fait comme, ah, mon Dieu, c'est possible, j'ai trouvé une direction. Ouais, fait que j'étais vraiment contente après cette rencontre avec ma directrice. Ça s'est concrétisé là, après cette première rencontre.
Donc là, vous nous avez présenté un petit peu les deux, le déclic, puis comment vous avez fait la rencontre de Caroline. Puis là, après vient le travail de précision, dans le fond, formuler une vraie question de recherche, une problématique, trouver l'angle, ce qui oriente la suite. Donc, je serais curieuse de vous entendre un peu, si vous pouvez nous présenter vos questions de recherche respectives en quelques mots. Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre ou à éclairer à travers vos projets?
Je peux y aller, si tu veux, Rachel.
Oui, vas-y.
Alors, c'est ça. Donc, moi, ma question de recherche, ça, comme je disais, c'est Caroline qui m'a apporté la notion des écrans. Et donc, moi, je m'intéresse plutôt à tout ce qui concerne l'exposition indirecte aux écrans. Donc, il y a un écran qui roule, en fait, en arrière-plan, sans qu'il constitue la cible attentionnelle première de l'enfant et ses effets sur le développement cognitif des enfants d'âge préscolaire.
Donc, que ce soit la télé en arrière-plan ou un parent qui est sur son cellulaire à côté de
l'enfant. C'est un peu différent, mais c'est ça. C'est plus la télé. Un écran qui roule, en fait, qui a du son, l'aspect audiovisuel qui peut perturber. Là, parce que ça, l'écran, c'est plus la technoférence. C'est un petit peu différent.
Mm-hmm. Puis toi, Rachel?
Moi, de mon côté, comme je le disais tout à l'heure, c'est sûr que je m'intéresse là, à la population des cégepiens et des cégepiennes. Puis, en fait, ma question de recherche, c'est l'utilisation des écrans chez les cégepiens et les cégepiennes et ses effets sur leurs habitudes de vie, sur leur santé mentale, puis sur leur rendement scolaire. Donc, je souhaite vraiment observer l'utilisation des écrans, disons, dans dans une vision plus large que de pointer quelque chose de très précis pour avoir comme le meilleur portrait, la compréhension des écrans, peut-être la plus fine possible. Donc, c'est pour ça que je regarde plusieurs éléments dans ma question de recherche, parce que je considère également que dans la vie, hein, quand on observe, quand on veut, on s'intéresse à une relation entre des éléments, bien, il y a des liens avec plein de choses. Mmh. Donc, c'est ça que je trouve riche, hein, c'est d'observer l'utilisation des écrans avec des habitudes de vie. Puis ça peut interagir ensuite sur la santé mentale. Ah oui, puis le rendement scolaire, lui aussi, il peut prendre une place là-dedans. Donc, c'est ça, je trouve ça très intéressant, très riche de considérer plein de choses dans ma question de recherche.
Oui, puis c'est intéressant de regarder ça au niveau des jeunes adultes aussi, parce que je crois qu'il n'y a pas tant de littérature sur cette population-là en lien
exact,
avec les écrans.
Exact. C'est ça. C'est qu'il y a plus de littérature concernant les enfants, puis les adolescents. Là, on retrouve plusieurs études. Puis en même temps, bien, les enfants, c'est sûr que c'est très important de considérer les impacts des écrans. Emma pourrait en parler là-dessus, oui, étant donné qu'elle s'intéresse aux enfants, mais parce qu'ils sont en plein développement. Mm-hmm. Donc, ça, c'est sûr qu'au niveau de la société, c'est primordial. Mais les jeunes adultes, par exemple, ils vivent des choses différentes que les enfants, mais qui sont tout aussi importantes par rapport à la santé mentale. On sait que durant les dernières années, la santé mentale des étudiants postsecondaires s'est beaucoup détériorée. Puis ça, c'est important, c'est vraiment important de le considérer. C'est un enjeu de santé publique. Donc, les jeunes adultes sont dans une période de transition à l'âge adulte. Il y a des enjeux par rapport à leur développement d'identité. Puis, oui, c'est important aussi de mener des études là, auprès de cette population-là.
Mm-hmm. Je reviendrai, on a parlé un peu de l'influence de la pandémie sur tes intérêts de recherche, Rachel. Mm-hmm. Emma, toi aussi, dans ton cas, on sait que les parents ont plus utilisé les écrans pendant les confinements, ce qui a peut-être pu augmenter l'exposition indirecte des tout-petits. Est-ce que la pandémie a aussi influencé la manière dont tu abordes les phénomènes dans ta recherche?
Oui, parce que ça, ma recherche, moi, je me situe dans l'analyse secondaire de données. Donc, j'ai deux bases de données. J'ai les données de l'EDEC, l'étude longitudinale de développement des enfants du Québec, qui date des années 2000, on va arrondir. Et j'utilise aussi la base de données de la professeure Fitzpatrick, qui est la Nova Scotia Media Use Study. Et en fait, les temps de mesure ont été réalisés lors de la pandémie de la COVID-19. Donc, c'est sûr qu'on mesure à ce moment-là l'exposition aux écrans et on peut voir qu'il y a quand même une forte exposition aux écrans de manière générale. Moi, je m'intéresse à la population préscolaire, d'âge préscolaire. Mais on peut voir qu'il y a quand même une forte présence des écrans de manière générale, ce qui dépasse les recommandations journalières de 1 heure maximum. C'est sûr, on les dépasse. Là. Et la littérature aussi actuelle montre également que cette tendance a se maintenir. En fait, les enfants sont toujours aussi fortement exposés aux écrans et ils dépassent forcément les recommandations journalières.
Oui, là, tu as abordé un peu les bases de données longitudinales que tu utilises. J'aurais un peu des questions sur vos approches méthodologiques qui sont bien différentes. Donc, toi, Emma, t'exploites ces bases de données-là. Rachel, toi, t'as conçu et administré un questionnaire auprès de jeunes adultes au cégep. Oui. Peut-être que je peux commencer avec toi, Rachel. Qu'est-ce que tu souhaitais explorer comme variable dans ton instrument de mesure?
Bien entendu, des éléments par rapport à l'utilisation des écrans. On parle de temps d'écran récréatif, mais on parle aussi de contenu qui est visionné par les étudiants et les étudiantes, puis également de contexte d'utilisation. Donc, ça, c'est 3 éléments qu'on retrouve là, dans la littérature concernant l'utilisation des écrans. Donc, 3 choses importantes à considérer pour avoir un portrait un peu plus juste de l'utilisation des écrans. parce que tout dépendant, oui, il y a le temps d'écran. Le temps d'écran, c'est sûr qu'il est important à considérer dans une perspective de sédentarité. Ça, c'est bien certain. Mais également, le contenu va faire une différence par rapport aux impacts des écrans. Donc, c'est également à considérer. Puis ensuite, j'ai abordé la thématique des habitudes de vie. Donc, on parle de sommeil, on parle d'alimentation également, on parle d'activité physique. Ça, c'est une variable d'intérêt pour moi, étant donné que je suis enseignante en éducation physique. Puis ensuite, il y a des échelles sur la santé mentale. Donc, sur la santé mentale positive. Donc, ça se décrit avec trois sous-échelles de bien-être, le bien-être émotionnel, psychologique, social. Puis ensuite, il y a des échelles aussi sur les symptômes d'anxiété et de dépression. Donc, voilà. Puis ensuite, c'est les cégeps qui me fournissent les cotes R, ce qu'on appelle au cégep, là. Donc, pour le rendement scolaire. Ça, c'est les établissements qui me fournissent ça.
Tu as quand même réussi à, je pense que c'est 3000 cégepiennes, cégepiens que tu as recrutés.
Oui, donc, oui, oui, on a un bon échantillon. Oui, mais je suis vraiment pas toute seule là-dedans. Il y a plusieurs personnes enseignantes au collégial, en éducation physique notamment, qui ont collaboré au recrutement, à la collecte, là, au recrutement des données. Donc, c'est ça, qui m'ont aidée là, en me laissant le venir dans les classes avec une capsule, bref.
C'est un bel avantage d'avoir déjà un pied dans le milieu, d'avoir des collègues puis des contacts.
Oui, ça l'aide. Oui, vraiment.
Puis Emma, de ton côté, tu parlais des bases de données utilisées. Qu'est-ce que tu regardais? En fait, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui a été rapporté dans ces études-là que tu utilises pour voir un peu l'impact des écrans, de l'exposition indirecte aux écrans?
C'est ça. Donc, j'ai deux bases de données qui sont quand même assez éloignées dans le temps. J'en ai une qui date de 2000, donc c'est ça, l'ELDEC, où en fait, les parents... Ce sont les parents qui ont été interrogés là, dans un premier temps. Mais quand il y a eu un auxiliaire qui s'est déplacé au domicile des parents, en fait, il devait indiquer si la télévision, là, il n'y avait que la télévision, était allumée pendant l'entrevue. Ça permettait de voir un petit peu à quel moment s'il y avait une exposition directe ou pas à la télévision. Et j'insiste sur la télévision parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que la télévision.
C'est ça, si je ne me trompe pas, c'est une étude qui a débuté en 97-98.
Oui, les enfants sont en 97-98, puis ça, puis moi, mes temps de mesure, les enfants avaient 3 ans jusqu'à 5 ans, hein, et il n'y avait que la télévision à ce moment-là. Les nouveaux appareils technologiques là, sont apparus un peu plus tard, et ça, c'est ce qu'on prend, enfin, on les considère dans le deuxième temps de, dans la deuxième, pardon, base de données, la Nova Scotia Media Use Study, où là, en fait, on va s'intéresser un peu plus à quelle fréquence, en fait, les écrans, de manière générale, sont allumés sans que personne les regarde vraiment. Et donc, les parents devaient indiquer à quelle fréquence ils laissaient les écrans allumés. Puis nous, à partir de ça, on a pu voir si ça avait une incidence sur certains aspects du développement cognitif. Donc, par exemple, le vocabulaire de l'enfant, réceptif ou expressif, des habiletés de fonction exécutive, des choses comme ça, voir s'il y avait une influence ou pas.
Ouais. Puis c'est intéressant parce que là, il n'y a pas d'analyse nécessairement du contenu, c'est vraiment juste le contexte d'exposition qui est vérifié.
Oui, puis c'est un contexte précis, c'est vraiment que l'exposition indirecte, je ne m'intéresse pas à écoute passive ou le co-viewing, là, quand on regarde l'écran d'un enfant, ça, je ne sais pas, c'est pas mon concept principal, c'est vraiment l'exposition indirecte.
Puis là, vous êtes les deux quand même bien avancés dans vos projets. Vous avez commencé à analyser vos données, puis il y a peut-être déjà certaines tendances qui se dégagent. Emma, toi, tes premières analyses semblent suggérer des liens entre l'exposition indirecte aux écrans puis certaines habiletés cognitives chez les enfants de 5 ans.
Une exposition fréquente, une exposition indirecte fréquente, pardon, à la télévision ou aux écrans de manière générale, ça aurait tendance à produire des effets négatifs sur tout ce qui concerne le vocabulaire et les capacités attentionnelles. Pour le moment, vraiment, c'est ce qui ressort. Ça confirme un peu ce qu'il y avait dans la littérature. Mais nous, on a été plus loin avec des enfants un petit peu plus âgés, à 5 ans, en fait. On ne s'est pas juste intéressé, contrairement à la littérature, aux plus jeunes. On a été voir aux enfants d'âge préscolaire. Et okay. Donc, du coup, ça pourrait avoir une influence sur leur entrée dans le milieu scolaire.
Oui, vers la transition scolaire. Donc, c'est quoi, vous avez vu un peu des retards dans le développement langagier?
Oui, il y a des retards un peu dans le développement langagier. Ils ont des moins bonnes habiletés langagières, de manière générale, expressifs et réceptifs, dans les deux.
Puis, toi, Rachel, tu as complété ta collecte de données, entamé l'analyse, mais tu as déjà publié un article hors thèse
sur la santé
mentale des personnes au cégep.
Oui, c'est exact. Donc, cet article-là s'intéresse vraiment à la santé mentale des cégepiens et des cégepiennes. Puis, concernant le temps d'écran récréatif, on peut voir que le temps d'écran récréatif durant la fin de semaine, parce que j'avais le temps d'écran récréatif durant les jours de semaine, puis durant la fin de semaine. Donc, durant la fin de semaine, le temps d'écran il est plus élevé chez les personnes étudiantes au cégep. Puis, on peut voir, parce que j'ai mené en fait des analyses différenciées là, pour le genre, hein, on peut voir que chez les jeunes femmes, le temps d'écran récréatif durant la fin de semaine diminue les chances de présenter une santé mentale florissante. Donc, okay. Qu'est-ce qui sort dans les analyses de cet article-là concernant l'utilisation des écrans, le temps d'écran récréatif?
Donc, pas d'impact perçu sur la santé mentale chez les garçons, mais vraiment plus chez les filles.
Oui, vraiment plus. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'était... En fait, on trouvait important de mener des analyses différenciées pour le genre, parce que quand on a fait des analyses préliminaires, bien, on voyait des différences significatives tant au niveau de la santé mentale des cégepiens et des cégepiennes que tant au niveau de leurs habitudes de vie. Donc, c'est ce qui explique là, le choix d'avoir fait des analyses là, différenciées. Puis, c'est ça, concernant l'utilisation des écrans, la moyenne de temps d'écran là, récréatif est plus élevée chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes. Puis, le contenu aussi est différent entre les femmes et les jeunes hommes. Donc, les femmes consomment plus de temps d'écran sur les médias sociaux, alors que les jeunes hommes consomment plus de temps d'écran sur les jeux vidéo. Donc, ça, c'est des différences quand même qui sont importantes à mentionner parce que ça nous aide à comprendre aussi au niveau des impacts sur leur santé mentale, comment ça peut se traduire, là. Mm-hmm. Donc, les médias sociaux, tu sais, on sait, c'est une plateforme où il y a beaucoup de comparaisons sociales. Donc, chez les jeunes femmes, ça peut venir affecter leur bien-être.
Puis quand on étudie ça et qu'on a, ben, chacune d'entre vous, j'imagine que vous avez un cellulaire, que vous naviguez sur les réseaux sociaux, que vous utilisez les écrans dans votre quotidien. Donc, vous êtes utilisatrice, mais en même temps, vous êtes témoin par vos recherches des impacts de ces usages-là. Je me demande si vous êtes surprise à vous-même soit changer vos propres habitudes ou observer différemment comment vous interagissez avec les écrans, à savoir comment vos recherches ont peut-être modulé votre relation aux écrans.
Intéressant.
Moi, je dirais que pour l'exposition indirecte, ce qui est très drôle, c'est que c'est un contexte d'exposition qu'on oublie souvent, en fait. Qu'on ne considère pas toujours. Et dans ma pratique, je me rends compte que je le faisais quand même régulièrement. Parce que je suis venue seule ici, donc j'avais tendance à mettre la télévision et je me suis dit, ah, mais pourquoi, en fait, toi, tu la mets? Si ça, c'est pour avoir là, comme s'il y avait la présence de quelqu'un. Puis avec les autres membres du labo de Caroline ou de Gabriel Garon-Carrier, là, quand on fait des rencontres de laboratoire, c'est pas rare qu'on vienne me dire « Rachel, j'ai pensé à toi, on a mis la télé ». Ça, en fait, c'est ce sujet-là, juste l'évoquer, en fait, les gens se rendent compte autour de moi qu'ils ont recours à cette pratique et c'est pas quelque chose de rare. En fait, je me rends compte là parce que j'entends beaucoup de personnes le faire. Et je dirais aussi que, outre ma pratique, là, c'est que quand on va retransmettre le message, quand on fait des présentations à des parents, des choses comme ça, en fait, ça permet de déculpabiliser aussi le parent en leur disant « Oui, on vous présente ça, mais je vous rassure, moi aussi, je le fais, en fait. » C'est vraiment, ça permet de déculpabiliser le message. En fait, il passe beaucoup mieux là. Disant,
oui.
Pas grave là, nous aussi on le fait. C'est sûr qu'il faut qu'on revoie nos pratiques, mais moi aussi je le fais.
C'est ça, qu'on est tous dans le même bateau par rapport à ça,
à prendre
conscience de nos habitudes puis à essayer de les transformer.
C'est ça. Là.
Est-ce qu'on sait s'il y a des études sur l'exposition indirecte aux écrans chez les adultes? Est-ce que c'est quelque chose qui existe?
Chez les adultes, c'est ça, j'ai pas porté grande attention à ça, parce que c'est pas ma tranche d'âge de prédilection, mais je sais qu'il y en a sur les enfants plus âgés au lycée. Là, j'en ai une ou deux là, que j'ai vu passer, mais c'est ça, moins sur les adultes. Je pense pas qu'il y ait sur les adultes.
Peut-être pas, oui, c'est ça.
Oui, encore.
Puis toi, Rachel, comment ça a impacté ta relation aux écrans?
Moi, je dirais que j'ai observé des changements davantage en lien avec mon rôle de parent. Le fait d'être avec des collègues qui s'intéressent à l'utilisation des écrans chez les enfants. Oui, ça, je dirais que ça a mené une discussion, une réflexion avec mes enfants, mais avec mon conjoint également. Donc, je dirais qu'on était déjà des parents un peu sensibles à la question des écrans auprès de nos enfants. Mais là, avec tout ce que je sais maintenant, je pense que je regarde ça encore plus attentivement. Ouais. Puis, je trouve ça très intéressant aussi de voir le rôle de l'école dans l'utilisation des écrans chez les enfants. Bref, c'est ça, on le dit souvent, là, mais c'est vraiment omniprésent. Ouais. Donc, de mon côté, c'est ça, dans mon environnement familial, je porte attention sur des choses importantes, notamment en tant que maman, je reçois souvent, moi, les messages des autres mamans pour inviter mes enfants à aller jouer. Puis ça, tu vois, je demande à mes enfants, moi, qu'ils prennent le téléphone puis qu'ils appellent leurs amis au téléphone au lieu d'envoyer des messages. Parce que je trouve important que mes enfants s'expriment oralement au lieu de s'exprimer par un texto. Donc ça, c'est quelque chose que je suis maintenant très consciente, puis que c'est une action concrète que j'essaie de mettre en place, là. Dans ma famille, là, auprès de mes enfants. Puis, je trouve ça quand même intéressant. Puis, c'est fou parce que souvent, ça nous remène toujours à ce qu'on faisait avant, on dirait. Tu sais. Moi, j'ai grandi comme ça, tu sais, parce que la technologie, elle n'était pas présente à ce moment-là. Mais souvent, c'est ça, on faut refaire des fois qu'est-ce qu'on faisait avant. Puis, de mon côté... Oui, moi aussi, là, j'utilise les médias sociaux, tu sais, comme tout le monde. C'est ça qu'Emma elle disait tantôt. Nous aussi, on le fait. Mais je pense qu'il faut toujours garder en tête c'est quoi une utilisation équilibrée. Tu sais, on ne veut pas être tout noir, on ne veut pas être tout blanc. Tu sais, c'est le même aussi dans la vie, là. Donc, on essaie d'être dans une zone de gris qui est acceptable et qui ne va pas nous mener à avoir des effets vraiment négatifs, à se sentir pas bien. Donc, c'est ça. Avoir une utilisation équilibrée, être conscient de ce que ça peut amener pour pas se rendre jusque-là. Puis, c'est ça. Je pense que c'est des lignes assez directrices là, pour notre utilisation.
Ouais, donc de prendre un peu un recul sur notre propre utilisation, puis tenter de se mettre soi-même ses limites sans tomber dans des excès où on va diaboliser les technologies, mais tenter de trouver un peu notre juste milieu, finalement.
Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est sûr que quand on passe déjà aussi beaucoup de temps dans notre travail sur les écrans, bien, moi, pour ma part, ça fait en sorte que le soir, par exemple, j'ai vraiment moins envie de passer du temps, je pense, sur les écrans. Donc, oui. Peut-être que finalement, tu vois, ça vient balancer.
Oui. Puis, je m'intéresse un peu à savoir, côté mobilisation des connaissances, là, vous commencez à avoir des résultats de recherche, mais au-delà de la publication scientifique, J'imagine que vous souhaitez que vos travaux aient des impacts concrets parce que c'est, comme tu disais, Rachel, les écrans sont omniprésents, c'est quand même un enjeu de société. Comment est-ce que vous imaginez que vos conclusions puissent se traduire sur le terrain auprès de, bon, peut-être des parents de ton côté, Emma, peut-être du côté des personnes étudiantes de ton côté, Rachel?
Mm-hmm.
Est-ce que vous avez en tête des pistes là, pour partager un peu l'information puis soutenir les changements?
Il y a plusieurs aspects, là, je dirais. Il y a on en a fait déjà plusieurs pour résumer un peu, pour présenter les résultats des travaux qu'on a fait dans le labo de Caroline et pour sensibiliser les parents dans les écoles, en fait. Donc ça, moi, je sais que vu que j'attire un peu l'attention des parents, j'ai toujours une petite phrase pour mentionner l'exposition directe aux écrans dans ma présentation. Puis les parents, souvent, ça pop, ils y pensent pas forcément, en fait, à cet aspect-là où j'ai des questions après. Donc ça, je pense que c'est un premier biais. Deuxième biais, ça serait, j'aimerais vraiment beaucoup participer à des programmes, en fait, avec des intervenants, des organismes qui ont des intervenants et les aider, en fait, à développer leur programme et à mentionner, en fait, l'exposition en direct aux écrans, à mettre une petite ligne. C'est juste une petite ligne, c'est pas grand-chose, mais attirer l'attention sur ce contexte d'exposition qui est souvent oublié, là. Ou alors des concours de vulgarisation. Ça marche bien aussi, la vulgarisation scientifique. Il y a plein de biais, il y en a certes à l'université, mais il y a, mettons, à l'ACFAS, j'ai vu qu'il y en avait, il y a plein de moyens de vulgariser. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon point. Puis, il y a plus divers supports. Il peut y avoir un support papier, forme de nouvelles, mais il y a aussi les formes de BD. J'admets que j'aimerais beaucoup, mais je suis pas assez douée en dessin pour ça.
Oui, donc la vulgarisation scientifique sous différents formats, oui, c'est vrai que c'est une belle manière de faire passer l'information. Puis, ouais. Puis ton sujet, c'est vrai que c'est quand on pense aux écrans, on pense peu à l'exposition indirecte. Donc, il y a certainement de l'information à partager sur ces sujets-là.
C'est ça.
Ouais. Puis de ton côté, Rachel, as-tu des pistes pour mobiliser les connaissances?
Oui, bien, plusieurs pistes. Mais tout d'abord, je pense que c'est important de mentionner qu'Emma et moi, ayant la même directrice, soit Caroline Fitzpatrick, bien, on a la chance de faire partie d'un labo de recherche. En fait, elles sont deux professeurs, là, Caroline et Gabrielle Garon-Carrie. Puis, les deux, par ailleurs, détiennent une chaire de recherche. Puis ça vient avec des moyens, des ressources, puis plein d'opportunités.
Oui, absolument.
Donc, je tiens à le mentionner parce que notre parcours peut être différent des autres personnes étudiantes au doctorat. Donc, Emma et moi, on est souvent sollicités pour participer à des activités de diffusion, on a aussi à la table des décideurs politiques. Donc, je pense que déjà, ça, c'est une première étape quand on rejoint les décideurs politiques pour que le message soit entendu, pour que nos travaux, bien, c'est ça, soit partagé, parce que c'est certain que c'est ce qu'on souhaite, qu'il y ait des interventions dans notre société pour améliorer là, les choses. Puis ça me fait penser justement à l'automne dernier, il y avait la commission parlementaire sur les écrans. Notre directrice a participé à ça en tant qu'experte. Mais ça, c'était vraiment fabuleux qu'on ait ça, je trouve, au Québec, là. Donc, ça, c'est vraiment... ça, c'est une très belle opportunité de faire entendre les travaux, les résultats des travaux sur ce sujet-là.
Donc, je pense que c'est bien que tu mentionnes l'aspect mobilisé au niveau des décideurs, parce que c'est vraiment un sujet qui souvent repose sur l'effort individuel de tenter de gérer son temps d'écran, d'instaurer des nouvelles habitudes. Mais si on avait des politiques mieux établies qui feraient un soutien, ben c'est ça, il faut que l'information
puisse
se permettre aux décideurs pour que des politiques se mettent en place.
C'est ça, exactement. Tu l'as bien dit, Sonia. Là. Oui, il y a la responsabilité individuelle, mais il y a aussi en tant que société, qu'est-ce qu'on veut par rapport à ça.
Exact.
Puis devant des effets aussi délétères, le gouvernement, je crois, doit prendre aussi une part de responsabilité. C'est ça. face aux citoyens. Donc il y a cet aspect-là qu'on a un peu axé, je trouve, là, par la bande, là, disons. Puis ensuite, moi, c'est sûr que je souhaite aussi, par rapport aux cours d'éducation physique et à la santé au niveau collégial, étant donné que je suis enseignante, on aborde les habitudes de vie, bien entendu, parce que ça fait partie de nos cours. Mais moi, je trouve que c'est un peu mon mandat d'amener l'habitude de vie, de l'utilisation des écrans plus en premier plan. Donc, ça fait pas longtemps là, qu'on en entend parler de l'utilisation des écrans. Donc, de s'assurer que dans notre contenu d'enseignement, ça figure, d'exposer aussi les aspects positifs, négatifs, pour que les étudiants et les étudiantes ils soient plus sensibilisés à cette question-là, à cette habitude-là. Donc ça, c'est un autre aspect important là, dans mon niveau là, au cégep. Puis également, dans les cégeps, il y a toujours des mesures d'aide aux étudiants. Moi, mes travaux concernant les habitudes de vie, je pense qu'ils ont la place également là-dedans. Donc, c'est quelque chose que je souhaite que les cégeps développent davantage des interventions qui vont considérer les habitudes de vie. Donc, ça, c'est quelque chose que une autre piste là, sur laquelle je souhaite, intervenir là, de mon côté. Puis voilà, bien entendu, on fait beaucoup de congrès également. Oui. Donc, on essaie de rejoindre d'autres chercheurs, puis d'autres personnes également qui font partie d'organismes qui s'intéressent à cette question-là. Donc, voilà, c'est ça, les articles, les congrès, des tables aussi où il y a des décideurs politiques. Donc, c'est tout.
Oui, ça fait, comme tu disais, c'est aussi par le biais de Caroline Fitzpatrick, qu'on a l'opportunité d'assister à autant de congrès, puis des congrès internationaux de grande envergure, il faut le dire.
C'est ça. Biais. La structure de la chaire de recherche vous offre quand
ça
même.
Ça aide vraiment, là. Oui. Contrairement à d'autres étudiants, oui, on a quand même cet aspect-là qui n'est pas négligeable. Full note.
Mm-hmm. Bien, pour terminer, je pense que j'aimerais vous entendre peut-être un peu sur ce que c'est la vie autour du doctorat. S'il y a des personnes au baccalauréat ou à la maîtrise qui écoutent et qui se demandent « est-ce que je continue pour faire un doctorat? » on ne se cachera pas que le doctorat, c'est quand même assez exigeant. Vous jonglez entre recherche, enseignement, vie familiale, sociale, etc. Est-ce que vous avez peut-être des rituels, des astuces ou des limites qui vous aident à garder l'équilibre puis à ne pas vous laisser submerger par la tâche?
Je pense que je vais y aller en première. Je dirais que c'est une très belle aventure, c'est ça. Au début, moi, je sais que j'ai dû trouver mes marques. Je pense aussi que ça venait du contexte que j'étais étudiante internationale. Je pense que ça a joué. J'ai dû trouver mes marques, mais après, une fois que ça s'est instauré, ça s'est vraiment bien passé. Puis il y a notre programme en fait est vraiment balisé, si je peux dire ainsi, avec des grandes étapes à franchir, avec le projet de recherche, l'examen de synthèse, des choses comme ça. Donc il y a des étapes qui sont plus ou moins difficiles à réaliser, pas forcément à réaliser, à vivre, je dirais, ou quelque chose de similaire. C'est ça, c'est quand même une belle aventure. La chose que je dirais, la recommandation, c'est de savoir poser ses limites en fait, c'est de se fixer. Les jours où, par exemple, oui, je ne vais pas travailler, parce que sinon, on peut vite se retrouver submergé de travail. Puis, savoir dire non aussi, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, ou des fois, pour ne pas se retrouver noyé sous tous les projets, parce que c'est sûr, on a notre thèse, on a ce qui gravite autour, mais on peut se retrouver avec les congrès, d'autres projets.
C'est ça, les projets peuvent facilement s'offrir à nous, ouais.
Oui, c'est ça. Puis, au fur et à mesure qu'on... La première année, c'est plus difficile, mais au fur et à mesure, on va voir les projets s'empiler les uns sur les autres. Puis, au bout d'un moment, il faut apprendre à dire non. Et c'est quelque chose que j'ai appris très récemment. C'est dur de dire non. C'est dur parce qu'on a peur. Je pense que c'est ça, c'est qu'on a peur de se voir refuser certaines portes à l'avenir. Mais en fait, non, faut juste expliquer, dire j'ai trop de projets pour le moment. Puis ça se passe bien.
C'est ça, c'est à un moment donné, c'est la santé puis l'équilibre de vie qui en oui. prend un coup quand on dit ça non. Puis c'est souvent des projets aux études supérieures qui... Le temps n'est pas nécessairement évident à évaluer non plus, hein, le temps qu'on va consacrer à ces différents projets-là. Donc, de les cadrer de manière limitée, c'est pas si évident.
Oui.
Ben oui, c'est d'excellentes réflexions. Là, je vois qu'on a peut-être perdu Rachel, donc...
Ben, je parlais pas parce que je laissais Emma parler, mais je pense que mon son est... Oui.
Oui, mais je t'entends, on t'entend très bien, donc oui, si tu
on va
veux,
pouvoir
si
poursuivre,
tu veux y aller,
hein?
Rachel, oui.
Mm-hmm. Ben, en fait, tout ce qu'Emma dit, j'aurais pu le dire aussi parce que je suis entièrement d'accord avec tout ça. Oui, c'est ça. On a beaucoup de projets qui arrivent de partout. Puis c'est toujours des projets intéressants. On a envie de dire oui à tout. C'est ça le problème aussi. Je pense que quand on est au doctorat, c'est qu'on est passionné parce que c'est des études de longue haleine. Là. Puis, ben, c'est ça. En étant passionné, on aurait envie de dire oui à tout, mais on ne peut pas tout faire. Donc, c'est ça qui est vraiment difficile. Oui, c'est une grosse difficulté. Mm-hmm. Puis, c'est un piège également parce que quand on fait tous les autres projets, bien, c'est pas du temps qu'on met sur notre propre projet de thèse parce que la finalité, c'est quand même d'écrire, de déposer et de soutenir une thèse. Donc, c'est ça qui est pas évident non plus parce que nous, on a un livrable. Pour la fin, donc voilà. Moi, ce qui m'aide beaucoup, par contre, je dirais, c'est d'avoir une routine. Bon, c'est sûr que j'ai peut-être pas de mérite parce qu'en tant que parent, la routine s'installe rapidement dans notre vie. Donc, je suis habituée depuis très longtemps de me lever tôt, puis c'est comme ça, hein? Peu importe qu'est-ce qui arrive, la journée doit se faire. Donc ça, c'est sûr que moi, ça m'aide beaucoup, 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 cette routine-là à avancer puis d'avoir un équilibre parce que avec des enfants, ben la journée, hein, à 5 heures, peu importe, ben la journée de travail doit se terminer parce qu'il y a un souper à faire,
ouais,
puis il y a des activités.
Puis, ouais.
Exact. Ouais. Donc, ça me permet de décrocher de façon obligatoire. Puis, une chance, parce que sinon, je pense que j'aurais beaucoup de difficultés à décrocher. Je me sens un petit peu avoir des tendances workaholic, là. Donc, c'est parfait pour moi là, d'avoir des obligations.
Mm-hmm. Ben, ça revient à ce que tu disais, Emma, de mettre ses propres limites. Je ne sais pas si toi, tu t'es imposé des journées comme le samedi où je ne travaille pas ou comment tu fonctionnes un peu pour te cadrer. Oui.
Alors, moi, c'est ça. Je le cadre pas forcément dans les jours de la semaine, là, parce que, bon, c'est ça. Comme je disais, j'ai pas d'enfant, je suis seule ici. Donc, c'est beaucoup plus facile de moi. Je peux, mettons, si j'ai pas envie de travailler le mercredi, je sais que je peux décaler le samedi ou dimanche.
Oui, donc, flexibilité. Ouais.
Je suis quand même très flexible. Donc, c'est ça. Mais par contre, ce que j'aime, c'est travailler en groupe, en fait, ou travailler au bureau à l'université. Parce que c'est ça. Le doctorat a souvent la réputation d'être quand même assez isolant. On l'entend beaucoup. Et en fait, je me force à aller à mon bureau à l'université parce que je vais côtoyer d'autres étudiants. Je ne vais pas rester toute seule à travailler devant mon ordinateur en train d'écrire ma thèse, en train de faire mes travaux. C'est aussi important l'aspect social, je trouve.
Et oui, briser l'isolement, discuter avec d'autres personnes qui rencontrent les mêmes pépins que nous.
C'est ça. Puis il y a des sessions de travail, il y a des journées de rédaction qui peuvent aider à briser cet isolement.
Absolument.
Aller travailler dans un café, juste travailler dans un café matinée ou une heure ou deux, juste couper cet isolement. Et je dirais d'autant plus lorsqu'on réalise des grosses épreuves, là, comme l'examen de synthèse. Là. C'est quelque chose de très demandant, mais des fois, il y a besoin aussi d'avoir un petit peu de social. Là. C'est important de ne pas négliger.
Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, puis en plus, je dirais, comme Emma le mentionne, le fait de côtoyer d'autres étudiants et étudiantes au doctorat, bien, ça nous amène un gros plus hein, parce que les personnes rendues au doctorat ont déjà une grande expertise, je trouve. Donc, une relecture par un collègue ou une collègue, bien, c'est des personnes qui sont capables vraiment de nous aider, de repérer des angles morts ou dans les analyses statistiques. C'est quand même tout un domaine en soi. des fois, on n'a pas encore fait telle analyse. Ben là, un autre étudiant le fait. Bon, on partage ça. Donc, c'est quand même des gens qui ont beaucoup de ressources et de compétences. Donc, c'est vraiment important aussi, je pense, de travailler en équipe puis d'aller cogner à des portes, de voir les autres personnes étudiantes, là, mm-hmm. parce que c'est riche.
Oui, donc j'entends que le soutien entre collègues, c'est quelque chose de bien précieux au doctorat.
oui.
Bien, merci beaucoup à vous deux, Rachel, Emma, c'était bien enrichissant comme conversation.
Mais merci à toi pour l'invitation, Sonia.
Oui, c'est un plaisir.
Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du GRIZE, rendez-vous sur notre site web au www.grize.ca. Suivez-nous aussi sur Facebook et LinkedIn. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. À l'animation, à la recherche et à la production, Sonia Envard, et au soutien technique, le studio Balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.